C'est hyper chouette de vous voir réunis pour la première rencontre de la librairie. J'espère qu'il y en aura plein d'autres derrière, mais je suis hyper contente de te recevoir, David, ce soir pour la première rencontre de Maison Marguerite. Pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc ce soir, voilà, je vais poser quelques questions à David. Ça va durer grosso modo 40 minutes, 1 heure en fonction. Cette rencontre est faite pour vous. Sentez-vous complètement libre de poser des questions quand vous le souhaitez. Si jamais vous avez envie de poser une question mais qu'on est passé à autre chose, de toute façon, je garde un petit temps à la fin pour ça. Et puis si jamais vous êtes un peu trop timide, David, si tu veux bien dédicacer certains ouvrages, et puis moi, je vous garde, comme promis, autour d'un petit verre de vin blanc, après cette rencontre, et de l'indémodable Chips qui l'accompagne. Voilà, donc... ah oui, important, vos téléphones portables, juste sur silencieux, pour éviter de voilà, d'avoir la sonnerie d'un coup caractère au beau milieu de la rencontre. Voilà, alors moi j'ai particulièrement aimé l'essai que David a écrit parce que je trouve que dans écrire son premier roman en 10 minutes par jour, il y a tout l'amour que David a pour son métier, toute la bienveillance qu'il y a pour les gens qui veulent écrire et l'humour aussi parce que c'est pas ennuyeux à lire, c'est très dynamique et tout ça a fait que je me suis dit, et depuis le début du projet, que j'avais envie d'en parler avec le maximum de gens possible. Moi, je ne sais pas si vous êtes là parce que vous avez envie d'écrire un roman ou parce que vous êtes simplement curieux. En tout cas, vous êtes au bon endroit. David, est-ce que tu veux... Là, je vais m'asseoir, je vais te laisser la parole. Est-ce que, avant de parler donc, de l'essai qui t'amène ici, tu es l'éditeur et le fondateur des Forges de Vulcain. Tu peux dire quelques mots sur ta maison d'édition, sur la ligne éditoriale qu'elle a. Ça fait 12 ans qu'elle existe maintenant. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus.
Alors tout d'abord, merci à tous d'être ici. Merci à la Maison Marguerite. merci de ton accueil. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, c'est la nuit de la lecture. Quoi ?
Moi, j'avais gardé en tête que c'était le décès de Louis XVI et la date de mon divorce. Mon premier divorce, oui, voilà.
Dans cet ordre.
Dans cet ordre, bien sûr, c'est mieux. Pas avec Vincent, bien sûr, je ne suis même pas encore mariée avec lui, tu vois, c'est bon de dire.
Moi, j'étais au lycée un jour et on avait une prof d'histoire qui était très conservatrice.
Ah,
et un jour,
un
21 janvier, elle arrive et elle a un bandeau noir. Et au début du cours, elle se lève et elle fait silence. On s'assied tous, on ne sait pas quoi faire, il y a un silence, on n'ose pas l'interrompre. Et au fond de la classe, on a une camarade de classe qui est aussi debout en silence. Et ça nous étonne, on la connaît très peu, elle est très discrète, et voilà. Et là, la prof lui dit, une fois qu'elle a fini son 5 minutes de silence, elle dit « Vous pleurez le roi aussi ?» Et Léa dit « Non, Lénine. » Car en fait, ils sont morts le même jour. Et là, la prof s'est pas démontée, a dit très gentiment « C'est bien aussi. » Voilà. Donc pour moi, ça sera jamais la nuit de la lecture, en fait, c'est ça. Donc c'était pas la nuit de la lecture, bon voilà, mais c'est la nuit de la lecture. Et en plus c'est une année qui est l'année où la lecture est la cause nationale. Donc c'est important. Oui, oui.
Ah, tu m'apprends quelque chose.
C'est ça. Au lieu de faire des subventions,
voilà, c'est ça. Ça compense en même temps.
Ça compense, tout à fait. Et puis à la fin de l'année, à Noël, vous aurez une médaille en chocolat. Voilà, pour avoir été des gentils libraires. Et voilà, donc j'ai créé il y a 12 ans les éditions Forges de Vulcain avec une tripotée d'amis. Je suis la seule personne à travailler à plein temps aux Forges de Vulcain. Je n'étais pas issu de l'édition. En fait, je fais des études de philosophie. J'étais enseignant et chercheur de philosophie spécialisé sur les questions de la créativité. Et j'ai toujours eu comme activité extrascolaire des choses un peu créatives. J'ai fait beaucoup de théâtre et beaucoup de dessins. J'ai publié des revues au collège, au lycée, quand j'étais étudiant. Et voilà, mais j'avais jamais pensé à être éditeur. Et puis un jour, dans mon métier principal d'enseignant-chercheur, j'ai dû faire un livre. Je me suis dit que c'était intéressant et qu'en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, j'ai décidé de devenir éditeur. Et donc, je suis devenu éditeur. J'ai créé une maison d'édition qui, petit à petit, a cru. Et c'est une maison d'édition qui, initialement, comme j'étais chercheur, était à moitié... on publiait la moitié du temps des essais, la moitié du temps des romans. Les essais, ça me venait de mon expérience d'enseignant-chercheur. Les romans, de l'expérience de théâtre. Parce que, donc, je vous disais, j'ai fait du théâtre des dessins, mais en fait, le théâtre, j'en ai fait du CP jusqu'à la fin de la thèse, donc de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 28 ans. Et pour moi, le roman, c'était une forme de continuation du théâtre, sans les contraintes de devoir répéter à une heure précise à pas d'heure, sans avoir le risque de se faire casser le nez parce qu'on a mal calculé la distance lors d'une scène. Voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins dangereux que d'autres choses. Et voilà, la maison a grandi, ce qui a un peu changé dans la maison, en dehors du fait qu'elle grandit, que finalement, avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses, c'est que le roman est devenu dominant dans notre activité. Donc chaque année, on sort 10 livres, dont 9 romans, voire 10 romans certaines années. Ça peut vous sembler pas beaucoup, c'est beaucoup de travail, mais ce qu'il y a, c'est qu'on fait partie d'un mouvement de l'édition indépendante qui a commencé il y a quelques années de faire moins de livres, mais de les accompagner plus, de lutter un peu contre la surproduction. Et c'est aussi une manière d'avoir ce qu'on appelle une politique d'auteur, c'est-à-dire on fait 10 livres par an, mais il y a beaucoup d'auteurs récurrents, c'est-à-dire des gens qui sont ce qu'on appelle des primo-romanciers, des gens qui publient leur premier roman chez nous, et qu'on va suivre titre à titre. Comme par exemple, l'auteur du mois de janvier, c'est Romain Ternon, dont j'ai publié 4 romans, c'est le quatrième. Notre prochaine rentrée littéraire, c'est Gilles Marchand, ça sera notre cinquième livre ensemble, quatrième roman, parce qu'il y a eu un recueil de nouvelles aussi. Ou Alexandra Kochelik, dont on a publié les 2 premiers romans, et on publiera le troisième. Donc c'est ce qu'on appelle une politique d'auteur, avec cette idée que... certes, ce qui est très important, c'est le texte. Donc je publie jamais quelqu'un parce que je trouve sympathique. Pour aider, pour que des grandes œuvres soient produites, il faut accompagner des gens sur le très très long terme. C'est-à-dire il faut rencontrer un auteur, trouver son premier texte bien, et se dire qu'on va créer une sorte de lien avec lui, un espace où on lui dit, voilà, tu reviendras, et à chaque fois on travaillera plus, et à chaque fois tu vas apprendre et grandir en tant qu'artiste et écrivain. Et voilà, et donc ça c'est le projet des Forges. Alors après, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale.
Les libraires t'en remercient d'ailleurs beaucoup hein, de ne pas nous, j'allais dire nous martyriser, mais nous submerger de parutions pour occuper le terrain, parce qu'il y a des éditeurs qui font ça, hein, qu'on publie plein. Ça marche au bout de 3 mois, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, l'auteur passe entre guillemets à la poubelle. Là, il y a vraiment la passion, l'amour hein, dont je parlais au début, c'est de faire les choses bien.
Il y a une approche artisanale. Après, il faut voir que il y a quand même la recherche toujours dans l'édition d'un équilibre entre l'artisanat et l'industrie. L'artisanat, c'est faire les meilleurs livres possibles. L'industrie, c'est les vendre au plus grand nombre de gens possible. On dit souvent que dans l'édition, il y a 2 manières d'échouer. C'est faire un mauvais livre qu'on a vendu à tout le monde. Ça, c'est un peu humiliant, voilà. Mais on se dit, ah, je l'ai vendu à tout le monde. Ah, c'était tout pourri. Voilà. Ou sinon, faire un super livre que personne n'a lu, on dit. Ah, et ben personne ne l'a lu, mais qu'est-ce que c'était bien. Et voilà, alors, voilà, on cherche ces 2 formes, entre guillemets, de succès. Et le seul moyen d'y arriver, c'est pas du tout par principe. C'est-à-dire, on n'a aucune forme de moralité. Hein,
c'est pas par amour.
C'est par intérêt pur. C'est par intérêt pur, on sait qu'en en faisant moins, on les fera mieux.
Voilà. D'accord.
Voilà, après, les maisons d'édition se distinguent pas simplement par ces choses-là, elles se distinguent aussi par ce qu'on appelle la ligne éditoriale, ce qu'elles cherchent à défendre. Et la ligne éditoriale des Forges, en fait, en 12 ans maintenant, n'a pas du tout changé. Elle a été conçue par les premières personnes qu'ont fondé les Forges, qui sont des amis, mais qui, eux, sont pas dans l'édition, sont juste des gros lecteurs comme moi, qui se sont rendus compte qu'en fait, en France, en fait, il y avait une littérature très littéraire, une littérature très populaire. Il y avait des littératures de l'imaginaire. Alors l'imaginaire, c'est la science-fiction, la fantasy, le fantastique, mais qui parfois ne sont pas assez littéraires. Des littératures littéraires qui sont parfois trop réalistes et pas assez imaginatives, créatives, poétiques. Et que donc, ça serait intéressant de travailler sur cet entre-deux. Et donc voilà, donc on fait parfois de la littérature de l'imaginaire qui a des ambitions littéraires, ou de la littérature, entre guillemets, littéraire, qui a un peu d'imagination.
Alors, en France, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on a...
Oui. Je suis désolée. En fait, j'avais trop une question qui me taraudait. Oui, et en fait, oui. Je voulais juste savoir, les Forges de Vulcain, il me semble que c'est une référence à Star Trek, même si j'ai jamais revu Star Trek.
Pardon ? Oui.
Je voulais savoir juste d'où venait le titre de la maison d'édition, parce qu'il me semble que c'est Star Trek, mais je ne suis pas sûre.
C'était pas Star Trek, mais c'est devenu Star Trek, ouais. Vous allez voir. Initialement, c'est les Forges de Vulcain, parce que la règle, c'était que, comme c'est une entreprise collective, c'est-à-dire où plusieurs personnes apportent des idées, on ne voulait pas que c'est le nom d'une personne, parce que ça se fait souvent dans l'édition. Donc on ne voulait pas le nom d'une personne, et on voulait quelque chose qui a un peu d'ambition. Alors ouais. C'était un peu ridicule, et donc on cherchait un dieu.
Okay.
Mais
En toute modestie, bien sûr.
Mais on est tombé sur Vulcain, parce que Vulcain, il a plusieurs caractéristiques. C'est que Vulcain, c'est le seul dieu qui est moche. Tous les autres sont beaux. Tous les dieux sont beaux. Toutes les déesses sont belles.
Hadès n'est pas reconnu pour sa beauté.
Non, mais il l'a quand même.
Mais il est reconnu pour sa puissance et sa grandeur, on va dire.
Et Vulcain...
Il est grand, surtout.
Vulcain a une autre sorte de puissance. C'est qu'il a fabriqué les outils de tous les autres. Et donc, tous les autres ont un outil.
Vulcain, c'est un dieu grec, en fait ?
Non, enfin, c'est Héphaïstos, en grec. Ouais. Vulcain, chez les Romains.
D'accord, ok.
Et il fabrique les instruments des autres. D'accord. Et donc, en fait, il est très important stratégiquement. Et en fait, l'idée, c'était de dire que les livres, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose de fragile et de petit, un livre. Mais ça recèle une très grande puissance. Et donc, Vulcain, ça donne... C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a des livres que j'ai lus à l'adolescence qui m'ont profondément marqué, qui ont changé ma vie, qui ont structuré mon existence. Oui, et pourtant, c'est juste des livres, c'est juste des tas de papiers, en fait. C'est c'est du bois mort, c'est tout.
Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir utilisé le mot forge, en fait.
Ah oui, mais parce que...
J'ai fait un peu d'études de graphisme éditorial, et j'ai pas mal... Parce que, comme vous dites, un livre en apparence, c'est juste genre du papier, du bois mort, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière au niveau typographique et autres, et qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte, et que ça demande une précision et...
Effectivement, la forge, c'est un terme effectivement de typographie aussi. Ouais. Donc, mais alors, ça, je l'ai appris après coup. Ouais. Et d'ailleurs, une fois, j'ai été invité aux rencontres nationales de la typographie, et les gens pensaient que je savais ça. Et donc, je l'ai appris dans l'invitation que c'était quelque chose d'important.
Mais les gens en voient bien sûr,
voilà. Ça fait partie. Non, et la blague, c'est que les Forges de Vulcain, c'est beaucoup de littérature générale, donc pas nécessairement la science-fiction. Et très souvent, il y a des gens qui me disaient « Vulcain veut dire science-fiction », parce que Vulcain, c'est une planète très importante dans Star Trek.
C'est pour ça que ça m'intéresse aussi, côté quand vous avez dit Forge, et puis comme vous avez dit que vous faisiez des études de philosophie avant, je me suis intéressée.
Initialement, il n'y avait aucun lien avec Star Trek.
C'est encore mieux.
Et avec le temps, j'ai décidé que souvent, grandir, c'était devenir ce que l'on est. Voilà. Et que si les gens pensent que... Voilà, donc d'ailleurs, je peux vous l'annoncer ici, c'est qu'en 2023, il y aura... 4 romans de science-fiction au Forge. On n'a jamais publié d'auteur de science-fiction francophone au Forge. Okay. On a déjà publié de la science-fiction américaine, avec River Solomon, par exemple, qu'on a publié 2 fois et qu'on republie une 3e fois en mai. Mais il y aura de la science-fiction l'an prochain. Je me suis mis à regarder Star Trek.
D'accord.
J'ai même, en termes, puisqu'on parle d'écriture ce soir, en fait, au Forge, je suis la seule personne à plein temps. C'est-à-dire que souvent, on constitue des équipes par livre, mais après, les équipes repartent dans d'autres maisons d'édition, et voilà. Et donc, j'avais besoin de quelque chose pour m'aider dans mon travail, et je me suis souvenu qu'il y a une série Star Trek que j'aime beaucoup, c'est Star Trek Next Generation, qui est le Star Trek des années 80, qui est une très très bonne série. Et dans Star Trek, En fait, Star Trek, initialement, c'est une série des années 60, avec un vaisseau qui traverse l'espace, et voilà. Et initialement... C'est pas une série de science-fiction. Initialement, c'est une référence au grand roman de, comment dire, de voyage maritime du 19e siècle. Tout est calqué sur ces voyages-là. Par exemple, dans Star Trek, le créateur du voyage intersidéral s'appelle Cochrane, et c'est une allusion à l'amiral Cochrane, qui était un marin écossais qui fut l'ennemi de Napoléon. Et donc, je me suis mis à lire Star Trek, et dans Star Trek, comme c'est des capitaines de vaisseau, ils ont tous un journal. Tiens, un journal. Et moi, je me suis mis à tenir un journal d'éditeur, qui n'est pas public, voilà. comme ça, ça me permet de dire les pires choses de la Terre sur le reste de mes confrères, voilà. Et chaque fois que je regarde un épisode de Star Trek, souvent les épisodes de Star Trek s'ouvrent par un extrait du journal du capitaine. Et donc maintenant, moi, chaque fois que je commence mon journal le soir, je avec cette idée qu'en fait c'est un voyage qui aura une fin, mais que il faut la documenter, ça m'aide beaucoup. C'est une forme d'écriture. Bah, après, je renoue simplement avec l'habitude du journal comme forme d'écriture. Voilà. Mais tu avais des questions peut-être. Oui. Là, tu t'es dit qu'on est parti jusqu'à.
Non, mais à un moment, je vais pouvoir.
Jusqu'à 8h du matin. Voilà.
Non, mais c'est bien, c'est très bien. Mais on fera une pause dîner, du coup. Pas de problème. Je voulais revenir sur la figure de l'écrivain, de l'écrivaine. En France, dans les autres pays, j'en sais rien, mais en tout cas en France, c'est sûr, il y a ce mythe-là de la personne qui écrit toute seule dans son coin. Qui jette d'un seul trait, voilà, le roman que l'humanité attendait, qui l'envoie par la poste à l'éditeur, qui est publié, et je me disais, tiens, est-ce que tu as fait écrire son premier roman en 10 minutes par jour pour briser le mythe de ces écrivains solitaires un peu romantiques, ou parce que tu recevais beaucoup de très bonnes histoires, mais hyper mal écrites?
Ah, non, non, alors... Dans cet essai, est évoqué le mythe de l'écrivain. C'est pas vraiment possible de casser un mythe, parce que souvent un mythe se structure pendant des centaines d'années, donc le casser, c'est compliqué. En fait, d'ailleurs, on peut casser les mythes par les faits, mais les casser par la parole, c'est très compliqué. Donc peut-être qu'un jour, ce mythe disparaîtra, mais pour l'instant, il est bien réel. Et c'est un mythe, alors qu'il est, en fait, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a beaucoup de livres qui parlent de ce mythe, mais il n'y a pas de grand livre de référence qui couvrirait la France depuis la Renaissance et les écrivains. Le livre peut-être le plus complet porte plutôt sur l'époque romantique, qui est la naissance du mythe moderne, qui sont les essais de Bénichoux, qui était un professeur en littérature française, et il parle des mages romantiques. Les romantiques, donc on est au début du 19e siècle, et à cette époque-là, il va se passer plein de trucs parallèlement. Les naissances, des démocraties libérales en Europe continentale. Donc chez les Britanniques, ça existait depuis un certain temps. Il y a l'alphabétisation. Il y a les évolutions dans l'imprimerie. C'est-à-dire petit à petit, au cours du début du 19e siècle, surtout première moitié du 19e siècle, on va abandonner l'impression à partir de fibres de coton pour la fibre de bois. Et en fait, on va commencer à produire plus de papier, donc plus de journaux, les gens vont lire, enfin, tous ces phénomènes se jouent ensemble. Et ça a une importance dans l'écriture, c'est-à-dire ces conditions pratiques de diffusion des idées, c'est que la génération romantique, c'est les premiers écrivains qui écrivent et qui ne savent pas exactement qui va les lire. C'est-à-dire que nous, les grands écrivains qu'on étudie au collège-lycée qui sont antérieurs à 1800, la plupart, ils savent vaguement qui va les lire, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent. Parmi les gens qui lisent, il y en a beaucoup qui ne pourront jamais s'acheter un livre. Et donc, ils ont une vague idée de qui les lit. Là, par exemple, le cofondateur des Forges, c'est un historien, Joël Chandelier, qui a notamment écrit chez Belin l'histoire de la France occidentale, qui est sortie l'an dernier, qui a un très beau livre. Et en fait, je parlais avec lui il n'y a pas très longtemps du livre Le Dernier Duel de Ridley Scott. Il a dit, en fait, historiquement, c'est un livre assez juste, mais il y a un moment, et ça ne vous gâche pas le film, où il y a quelque chose de complètement fou. C'est qu'un des personnages, qui est une sorte d'agent financier pour un noble, est dans une bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il y a des livres partout. Et il dit, en fait, à la bibliothèque du roi de France à cette époque-là, plus grande bibliothèque de France, à 900 livres. 900 livres, c'est beaucoup moins qu'ici, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plus de livres que dans la bibliothèque du roi de France au XVe siècle. Et il dit, par contre, ça va... Mazarin, par exemple, est à 80 000 livres dans sa bibliothèque, qui est la plus grande bibliothèque européenne à l'époque. Et ça continue comme ça. Tout ça pour dire que, encore au XVIIIe siècle, beaucoup d'écrivains ont une vague idée de qui va les lire, ou du profil des gens qui vont les lire. Chez les romantiques, il n'y a plus cette possibilité. Ils ne savent plus exactement qui va les lire. Et donc, il y a une angoisse, selon Benichou, sur la réception. Et une de leurs angoisses, déjà à l'époque, c'est qu'on rentre dans une nation, dans un monde démocratique où tout le monde va pouvoir lire et écrire, parce que tout le monde devient alphabétisé. Leur grande peur, c'est que tout le monde se mette à écrire. Que tout le monde se mette à lire, c'est très bien, parce qu'on peut vendre plus de livres. Que tout le monde se mette à écrire, c'est pas bien, parce qu'on a beaucoup de concurrence. Donc en fait, il crée une sorte de figure, à ce moment-là, qui dit « Moi, écrivain, je suis comme vous. Ce qui est important, c'est pas mon intelligence, mon éducation, c'est ce que je ressens, et vous aussi, vous pouvez le ressentir, c'est le triomphe du sentiment. Mais j'ai quand même reçu d'une force supérieure un pouvoir que vous n'avez pas. Voilà, parce que faudrait pas quand même que vous y mettiez vous aussi. » Et donc, c'est ce que Benichou appelle le mage romantique. Donc ça mériterait d'autres livres. Alors, le livre de Benichou est très bien, mais ça mériterait de se développer, d'être développé sur plusieurs siècles. C'est vrai que tu me donnes une idée d'un livre. C'est pas moi qui le ferais, parce que j'ai pas les compétences, mais parce qu'on peut penser aussi que l'image de l'écrivain... le mage romantique, c'est quelque chose qui se passe dans toute l'Europe. Mais déjà en France, il y a plein de particularités liées à la figure de l'écrivain au XVIIe et au XVIIIe siècle, vraiment assez françaises. Dans des bons et des mauvais aspects. Un mauvais aspect, par exemple, qui est très frappant, et je pense que les Français ne le mesurent pas, il y a quelques années, j'enseignais le français aux États-Unis.
D'accord.
Et c'est la première fois que j'ai fait un atelier d'écriture, qui est le début de l'aventure qui finit par le livre dont on parle ce soir. Mais pour enseigner le français à des étudiants américains, j'avais un manuel qui était des nouvelles de langue française qui étaient commentées. Et il y avait une nouvelle de Camus que je ne connaissais pas, que j'ai d'ailleurs jamais retrouvée, qui s'appelait Jeanne. Il faudrait que je cherche ce que c'est cette nouvelle. Et il y a une phrase, Jeanne n'était sans doute pas très intelligente.
Ah.
Et Jeanne, c'est la compagne du héros. Donc on se dit, il n'est pas très sympa. Et un astérisque qui dit, pour les Français, l'intelligence est une qualité personnelle importante. Et la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, c'est bizarre, je pense que pour tout le monde, dans tout le monde, pour tous les peuples, c'est important. Et la chance que j'avais, c'était que la personne qui avait rédigé ce livre, qui avait conçu ce livre, c'est une prof très connue, mais elle était dans le bâtiment d'à côté du mien. Donc un jour, je suis allé voir à ses heures de permanence. Et elle m'a accueilli, et elle était parfaitement francophone, elle avait vécu en France, et elle me disait, mais en fait, effectivement, pour... les Français, c'est pas juste que l'intelligence c'est important pour tout le monde, mais c'est une qualité, ou du moins l'apparence de l'intelligence, une qualité qu'ils vont mettre au-dessus des autres. Et à ce moment-là, on était en pleine élection de George Bush Junior.
D'accord.
Et beaucoup de gens regardaient les débats avec Al Gore en disant les gens vont voter pour Al Gore parce que George Bush, il a pas l'air intelligent. Mais George Bush, lors des débats, il avait l'air sympathique par rapport à Al Gore.
Et ça, c'était.
Et ça a marché.
Ouais.
Et en fait, c'est important parce que, par exemple, dans la figure de l'écrivain français, il y a la notion d'esprit au 19e siècle, au 18e siècle, par exemple. Et l'esprit, c'est si vous trouvez un bon mot, mais qui est très cruel, ça passe. Et en fait, il n'y a quasiment pas d'autres langues où il y a cette tradition.
D'accord.
Même un auteur comme Swift n'est pas un auteur très apprécié par les Britanniques à l'époque, pour cette raison-là. La notion d'esprit, c'est... Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y aurait quelque chose à faire sur la figure de l'écrivain en France. La figure du mage romantique, c'est une figure qui est restée, qui est une figure qui consiste à dire on écrit quand on a l'inspiration. Le don n'est pas lié au travail. On ne peut pas apprendre les compétences artistiques. Et voilà.
Et justement, toi, tu dis exactement l'inverse. Toi, quand on te lit, on te dit tout le monde peut écrire, absolument tout le monde. Et tu revêts une casquette assez inédite, celle de coach. Tu vas donner des conseils pour vaincre, par exemple, l'angoisse de la page blanche. Et moi, j'ai presque l'impression que finalement, le talent, c'était juste une bonne disposition psychologique à se mettre au boulot, quoi.
Alors...
En gros, y a
oui et non. Il y a un peu ça, mais c'est il y a quelque chose. Parfois sur les réseaux sociaux, il y a souvent ces petites phrases dont on ne sait pas si elles sont vraies ou complètement fantaisistes. Phrase de Brel qui dit « Le talent, c'est d'avoir envie ». Je ne sais pas si c'est vrai, je vérifierai. Si, je veux dire, si c'est vrai, que c'est vraiment une phrase de Brel, et voilà, il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier beaucoup de choses cette nuit. Hein, voilà, c'est ça, je fais la petite liste mentale. Non, en fait, il y a quelque chose qui est difficilement surmontable, et je pense quelque chose qui est difficilement acceptable pour nos esprits démocratiques, c'est que, en fait, l'endroit où vous êtes né, l'éducation que vous avez reçue, l'éducation collective que vous avez reçue, vos expériences de vie, ça façonne quand même un individu, donc on n'est plus égaux. Oui. On est égaux, mais très très vite, on n'est plus tout à fait égaux. Mm-hmm. Donc là, ça c'est vrai que... Donc ça, on ne peut pas, par un fiat de la volonté, le surmonter complètement. D'accord. Mais sinon, sur le reste, il y a effectivement... l'acquisition par toute forme de travail de compétences. Souvent, en fait, la plupart des écrivains, c'est la discipline artistique où les gens commencent le plus tard. Parce qu'on dit souvent qu'il faut avoir un peu roulé sa bosse pour écrire, ce qui n'est pas faux. Mais ça peut sembler étrange parce qu'au contraire, dans toutes les disciplines artistiques, on dit que le niveau technique de quelqu'un est important. Ce niveau technique, il repose sur le fait que la personne pratique beaucoup et que cette pratique commence tôt. Il faut que le dessin, ça commence tôt, que la musique, ça commence tôt, et voilà. Et en fait, dans l'écriture, ce qu'on voit, c'est que souvent, le travail de préparation de l'écrivain, c'est un travail qui va passer par d'autres formes que l'écriture, parfois. Ça peut passer par la lecture, ça peut passer par parler beaucoup, ça peut passer par l'enseignement, parler aux autres... Faire des discours, par plein de choses qui sont des formes de qui font préparer et travailler à l'écriture, mais qui ne sont pas explicitement du travail d'écriture, que les gens eux-mêmes ne perçoivent pas comme un travail préparatoire à l'écriture. Après, il y a une dimension qui s'apprend, c'est-à-dire qu'il y a des parties d'une œuvre écrite, d'un roman par exemple, qui sont des parties où il y a une dimension de technique et de manière. Et ça, ça s'apprend. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai essayé de voir une sorte de grande figure de l'écrivain sur 4 siècles, mais il y a quand même la rupture romantique est très forte, parce que c'est vrai qu'à partir de l'époque romantique, la notion de sentiment, j'ai ressenti quelque chose, la notion d'intuition sont devenues dominantes, alors que le 17e et le 18e, c'est quand même des livres où les manuels d'écriture existent en français. Il y en a beaucoup. Alors, c'est des manuels de versification, c'est des arts poétiques, des esthétiques. En fait, il y en a plein. Ce n'est pas une invention moderne. Simplement, ça a eu tendance à reculer en s'appuyant sur une idée qui est juste de dire ce n'est pas en copiant un manuel ou un art poétique qu'on fait une grande œuvre. Ce qui est tout à fait vrai, en fait. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose qui s'appelle le génie des grandes œuvres et le génie des grandes autrices ou des grands auteurs. Mais c'est quelque chose qui reste rare. Voilà. C'est-à-dire que les conseils et les manuels amènent les gens à un certain niveau, à écrire quelque chose d'intéressant, quelque chose qui peut être partagé, quelque chose dont ils sont fiers. Mais le passage vers quelque chose d'autre, le manuel ne va pas vous le donner. Ce qu'il va vous donner, c'est peut-être le travail, c'est peut-être la chance, c'est peut-être rencontrer un sujet fantastique, c'est peut-être être dans un moment dans votre vie où il y a quelque chose qui fait que ça va au-delà. Mais sinon, sur la partie... purement technique, qui peut être explicité. C'était aussi cette réflexion, et ça répond à la deuxième partie de ta question, c'est qu'effectivement, en tant qu'éditeur, je reçois beaucoup de manuscrits. Et les demandes des gens qui vous envoient un manuscrit, il y en a deux. La première, c'est « Est-ce que vous pouvez me publier ?» Et la deuxième, c'est...
S'il te plaît, non ? Ils disent pas.
Si. Non, mais les gens sont très gentils. Ouais. Et la deuxième demande, c'est si vous ne me publiez pas, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Et la grande difficulté, c'est qu'on déjà on a du mal à répondre aux gens par manque de temps. Et donc prendre du temps pour leur expliquer pourquoi on peut pas, pourquoi on peut pas les publier, c'est très difficile. On dit souvent en plaisantant, l'éditeur qui va passer du temps à expliquer à un auteur pourquoi il prend pas un livre, c'est un éditeur qui n'a pas compris son métier. Parce que notre métier, c'est de défendre les auteurs qu'on publie. Les auteurs qu'on ne publie pas, on peut être désolé pour eux, des choses comme ça, mais ils consacraient beaucoup de temps. C'est soit qu'on n'a pas compris son métier, soit qu'en fait, on a identifié que l'auteur avait un potentiel, mais que le texte qu'il nous avait donné n'était pas le bon. Donc on se dit, faut lui laisser une bonne impression, parce que si on vient dans un an, deux ans, trois ans avec un texte meilleur, faut pas qu'il soit furieux ou qu'il ait un mauvais souvenir de nous. Donc, mais donc, quand on voit passer plein de manuscrits et qu'on ne peut pas leur répondre individuellement, il y a deux choses qui se passent. C'est que d'une part, on se rend compte que souvent, les erreurs des manuscrits sont les mêmes. Mm-hmm. Donc on n'a pas envie de répondre à chaque personne, on a envie de répondre collectivement. Mm-hmm. Ça, c'est un premier truc. Et après, l'idée, c'est que souvent, les textes vont pêcher sur des choses qui sont techniquement explicables. Mmh. Et les choses qui sont techniquement explicables, c'est que souvent, on a des gens qui écrivent qui pensent que l'inspiration suffira, que l'intuition suffira, que le travail, c'est secondaire, que les règles, ce sont secondaires. Mais beaucoup de personnes, quand elles veulent écrire, veulent raconter une histoire. Et l'art de raconter une histoire, c'est un art qui repose sur certaines formes de règles. Alors
justement, pour rebondir sur ça, j'ai noté une phrase, pour parler pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est quoi finalement ta méthode pour écrire un premier roman. Donc il y a cette phrase, j'ai l'impression qu'elle résume un peu le principe, c'est concevoir ce monde immense de vie, de scène, d'histoire, dont le texte écrit n'est qu'une partie visible. Là, en fait, t'as tout. C'est-à-dire, il faut penser à tout, il faut écrire beaucoup, il faut penser à ses personnages, il faut penser à son histoire. Tu détailles ça, le schéma narratif en trois actes. Ouais, il y a le côté architecte, il y a le côté jardinier dont tu parles. Et c'est de penser à tout, et juste l'histoire écrite, en fait, n'est qu'un aspect du monde que vous avez imaginé, si je ne me trompe pas. Oui.
Alors ça m'est venu d'une expérience personnelle. Je vous ai dit que j'avais fait du théâtre, et j'ai fait du théâtre de l'entrée en CP jusqu'à la fin de la thèse. Et en fait, juste après le baccalauréat, un peu après le baccalauréat, deux ans après, dans une troupe de théâtre. Et la manière dont ils pratiquaient le théâtre, ça a complètement changé ma vision du théâtre. Et c'était lié à quelque chose de très simple, c'est que pour la première fois, j'avais face à moi des vrais comédiens et un vrai metteur en scène. Auparavant, ce que je faisais, c'était plus de la littérature en costume. On regarde le texte, on l'apprend, on essaie d'imaginer des choses à partir du texte, et de mettre ça en scène, et voilà. Et d'une certaine façon, ça, c'est un traitement très littéraire du théâtre. Alors que je suis entré dans une troupe où le théâtre était pensé plus près du cirque, plus près de la pratique sportive, c'est-à-dire quelque chose où c'est d'abord le corps qui est engagé, et voilà. Et on a fait beaucoup de Molière dans cette troupe, et en faisant du Molière, j'ai redécouvert Molière, j'ai redécouvert des pièces, j'y pense parce que comme c'est l'anniversaire de Molière cette année,
oui, c'est vrai.
En plus de l'année de la lecture, là on coche tout. Hein,
voilà. C'est les 400 ans de son baptême, parce qu'on ne sait pas
quand
est-ce qu'il est né.
Voilà. C'est quel jour?
C'était il y a deux jours ou trois jours, je ne sais plus. Non, c'était le 15 janvier dernier.
15 janvier. Voilà. Et donc, j'ai refait des pièces que j'avais pourtant jouées et que j'ai enfin découvertes. J'ai enfin compris quelque chose. Et des années après, j'ai lu un livre qui est pourtant un livre de base dans la construction de l'acteur, qui est un livre de Constantin Stanislavski. Et Constantin Stanislavski, qui était un directeur de troupe et metteur en scène russe du début du XXe siècle, qui a été un des premiers à mettre en scène Tchekhov, qui était un ami un ami de Tchekhov. Enfin, ils ne sont pas toujours bien entendus, mais ils étaient amis quand même. Stanislavski, en fait, on le connaît indirectement parce qu'il a développé ce qu'on appelle la méthode Stanislavski, sauf qu'en fait, ce n'est pas lui qui l'a développé, c'est son neveu, ses héritiers.
C'est sa femme.
Pardon. Je ne sais pas, Et c'est une méthode qui s'est développée notamment aux États-Unis. Et on considère que la plupart des grands comédiens des années 40 à aujourd'hui aux États-Unis sont des acteurs. Vous entendez parfois en anglais une expression method actor, acteur de méthode ou acteur selon la méthode. Et c'est la méthode Stanislavski. Et l'idée de Stanislavski, c'est de dire que pour dire un mot, en fait, il faut reconstituer toute la vie psychique du personnage jusqu'au moment où il prononce ce mot. Alors, la reconstituer en cherchant des analogies avec notre propre vie, aller vers le vécu. Enfin, il y a plein d'éléments techniques là-dedans. Mais il y a cette idée que le mot, c'est ce qui reste à la fin. Mais le théâtre, en fait, c'est 99% autre chose que des mots. Et pour moi, c'était une révélation parce que la manière dont on nous enseigne souvent le théâtre au collège ou au lycée, pas toujours, mais souvent, en tout cas, c'est l'expérience que j'avais eue, c'était que le théâtre est une partie de la littérature. Il y a la poésie, le roman, le théâtre. Et donc, ça donnait l'impression au théâtre que c'était le même régime de texte que les deux autres genres littéraires. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, pour faire une autre analogie qui serait plus juste, c'est... ça serait l'analogie entre le théâtre et la musique. C'est-à-dire, les notes écrites ne sont pas la musique, en fait. De la même façon, les mots du texte théâtral ne sont pas la scène, en fait. Et voilà. Et les romans...
Donc, il faut faire ça pour le roman.
Idéalement, oui.
En fait, ça me rappelle un truc, en fait, c'est, je me sens que je sais plus qui m'avait dit ça, ou je sais plus, c'est moi qui l'avais juste regardé, mais c'était par rapport à l'étymologie du mot comprendre, qui apparemment serait un truc genre prendre avec soi. Et ça me faisait toujours penser à ce truc, vous voyez, quand on voit comme dans le dessin animé, genre la petite lampe qui s'allume. Et je sais pas, enfin, moi je sais que, enfin, en ce moment j'écris plus trop parce que, bah, bref, peu importe. Mais j'ai toujours l'impression que ce soit genre dans la peinture ou dans le dessin, je sais pas si c'est là où vous voulez en venir ou pas, ou même dans la littérature ou dans quelques créations, enfin, quelques pratiques de création, c'est plus une question de se placer d'une façon particulière, de se placer de façon à, on va dire, casser des barrières et à justement prendre avec soi et accepter de tout donner et aussi de... Je sais pas, de regarder, mais de façon... Comme a dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on voit bien qu'avec le cœur, et justement de regarder avec son être entièrement et pas uniquement avec ses yeux et pas d'écrire uniquement avec sa main. C'est comme des principes, je sais pas, vous voyez les principes du taoïsme, les trucs comme ça. Enfin, je sais pas si c'est...
Alors,
mais... je sais pas si c'est...
Alors, il y a quelque chose de dire qu'effectivement, l'engagement dans l'acte d'écrire ou de créer, il doit être plus étendu et plus complet que ce qu'on pense. Parce que... en fait, comme de toute façon, l'écriture va porter les traces de tout ce qu'on est, il faut mesurer tout ça. C'est-à-dire comprendre qu'en fait, on ne peut pas écrire uniquement de manière purement intellectuelle.
Mais c'est sûr que la rigueur et le travail, etc., sont importants. Mais par exemple, quand on lit les Chants de Mal d'Aurore, l'autre Hermon, il était hyper jeune, il n'était pas expérimenté, c'était presque une sorte d'équivalent à Basquiat. C'était une sorte d'écriture brute, et quand on lit, on sent une sorte de frénésie un peu bizarre, comme si on ressentait la façon dont il écrit, comme si c'était un stylo dans votre main, quoi. Alors, des exercices comme ça. Enfin, après, il y a toujours des exceptions, etc. Mais
non, alors, de toute façon, il y a plus... Oh là, ça fait beaucoup de sujets que vous soulevez.
J'ai commencé à penser
l'art d'écrire.
Non, mais sur l'art d'écrire, il y a quelques... Alors, c'est un point complètement secondaire, mais un des sujets qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est que très souvent, quand on parle d'art d'écrire, ce qu'on fait, c'est que on prend l'œuvre d'art telle qu'on la reçoit, donc le roman, et on fait ce qu'on appelle du rétro-engineering. Le rétro-engineering, c'est ce qu'on fait, on vous donne un objet technologique, vous le démontez, et vous essayez de comprendre comment on est arrivé au résultat. Et donc, d'une certaine façon, pour une œuvre d'art, c'est vous voyez l'œuvre d'art, et vous vous dites, pour arriver à ça, l'artiste a fait ça. C'est-à-dire, vous essayez de deviner le processus qu'il y a derrière.
Mais ça, c'est pas possible.
Et sauf que c'est techniquement pas possible. Parce que...
Je sais pas.
Non, voilà. C'est qu'en fait, quand on lit sur les biographies d'artistes, les biographies sérieuses, c'est-à-dire pas les biographies fantasmées, mais voilà, on se rend compte que la manière dont fonctionne l'œuvre d'art pour nous et la manière dont elle fonctionnait pour l'artiste peuvent être complètement dissociées. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve un très beau caillou. Je le mets bien dans un musée, je pense bien la muséographie, la présentation autour. Ce caillou peut provoquer chez moi une émotion très 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 forte. Pourtant, ce caillou est bien une production de la nature. Il n'y a pas un être humain qui l'a on peut dire qu'il y a l'intention de la personne qui l'a mis là, qui a pensé autour. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe chez moi et ce qui s'est passé chez l'écrivain, on pense souvent que c'est des choses un peu symétriques, mais c'est assez rare que ce soit symétrique. Il y a parfois l'envie que ce soit symétrique, y compris chez l'écrivain. Mm-hmm. Mais voilà, par exemple, dans l'édition, on dit souvent, on sait quel livre on a écrit quand le lecteur l'a lu. Parce qu'il y a des auteurs qui veulent écrire un livre, et en fait, à la fin, ils ont écrit un autre livre, qui est très très bon, mais qui est presque au-delà de leur capacité. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Mm-hmm. C'est-à-dire au-delà de ce qu'ils avaient pensé, qu'ils avaient calculé. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà rencontré des grands écrivains qui écrivent des choses très intelligentes, et eux, ils ne sont pas très intelligents. Mais voilà, mais c'est très bien, c'est pas un problème.
J'ai envie de te demander le nom, forcément.
Non, mais
entre nous, c'est pas... Voilà.
Ils ont d'autres qualités, mais par
c'est
contre...
Pas, c'est une chance.
Tes questions. Parce que là, je me sens, j'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé, et j'ai un peu honte, là.
Non, tout va bien. Alors, juste, je voulais revenir sur le fait, tu donnes un schéma narratif en trois actes. Tu dis l'acte 1, exposition du monde. Acte 2, péripétie. Acte 3, résolution. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à un match de catch. Parce qu'un match de catch, c'est assez simple. C'est un gentil contre un méchant. Le gentil, vous le reconnaissez, simple, c'est le plus blanc des deux. Le match commence, bah, le gentil domine, hein, c'est normal, c'est le gentil. Et puis arrive le méchant qui triche. Il prend le dessus. Le gentil est dans une panade totale, il passe souvent par-dessus la troisième corde. Et puis, il y a une sorte de miracle, de second souffle qui arrive, et le gentil gagne, et puis voilà, et puis le vive les USA et tout ça. Et je me suis dit, et ça marche bien. Et je me suis dit, mon schéma narratif, j'imagine qu'on peut, qu'on n'est pas obligé de le suivre à la lettre, qu'il y a d'autres façons de faire. Mais si on le suit à la lettre, est-ce que tu garantis que ça sera toujours un bon roman ?
Ah non, parce qu'un roman, c'est pas juste son schéma narratif. Il y a des romans qui ont un bon schéma narratif, mais si la page est pas bonne, si les personnages sont pas intéressants, si la langue fonctionne pas... Un bon roman, c'est rare, hein, et c'est difficile. Donc c'est tellement de choses qui s'engagent en même temps. Voilà. Mais non, là, l'idée, c'était cette idée... Il faut voir que souvent, les ateliers d'écriture que j'ai fait depuis 2020, ça a souvent été des ateliers d'écriture en environnement scolaire, à l'université, au collège, au lycée, mmh. et parfois des ateliers adultes. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui est dans l'écriture et qui peut être formalisé ou modélisé. Il y a des choses qui ne sont pas modélisables. C'est-à-dire que les conseils d'écriture sur la phrase sont quand même très compliqués à donner. C'est souvent la pratique, c'est-à-dire c'est la pratique des gens qui ont l'habitude de se relire, de se réécrire, de réécrire d'autres personnes, et voilà. Ça, c'est vraiment la pratique. Formaliser les choses, c'est difficile. Par contre, d'ailleurs, les schémas narratifs sont plus formalisables. Mm-hmm. Mais je pense pas du tout que l'idée d'une histoire en trois actes, en fait, c'est pas du tout original, c'est Aristote. Dans la poétique, il dit une histoire, d'accord, un début, un milieu, une fin. Voilà. Ouais. Et pour plein de romans, et pour plein de manuscrits que je peux recevoir... Juste revenir à cette chose très simple. Vous voulez raconter une histoire. Mmh. Au début, il y a une sorte de question dramatique qui est posée dans le premier acte. Mmh. J'arrive à la fin. Je n'ai pas la réponse. Et ça n'a pas un effet esthétique positif. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire à l'auteur voulait qu'il n'y ait pas de réponse. Parce que ça, si l'auteur voulait qu'il n'y ait pas de réponse, on le sent, mmh. généralement. C'est la fin ouverte. Ouais. C'est, voilà. Mais souvent, je dis ah non, c'est juste l'auteur qui a oublié. Et parce qu'il n'y a pas eu cette phase d'analyse du schéma, voilà. Par exemple, une fois, lors d'un tournage, il y a très longtemps, j'ai rencontré un tournage de film de zombies. J'ai rencontré...
T'as eu mille vies, quoi, c'est ça ?
Non, j'ai eu une partie de ma vie où j'avais décidé de dire oui à tout ce qu'on me proposait.
D'accord.
Et donc, je me suis retrouvé... Oui, c'est très dangereux. Ouais. En fait, ouais, généralement, on ouais. le fait jusqu'au moment où il y a une catastrophe, ouais. et après, on arrête. Voilà.
Mal de dos, si c'est, pas...
c'est ça. Et donc, sur l'île Saint-Denis, à côté de Paris, on se retrouve sur le tournage d'un film de zombies, en sous-sol, dans les anciens entrepôts de la Samaritaine. On est 300 à courir dans le noir en étant couverts de gerbes de faux sang. Mm-hmm. Et j'ai rencontré deux étudiants en cinéma, avec qui je suis devenu ami. Ils ont créé une société de cinéma. Ils ont tourné un court-métrage, puis deux épisodes d'une série télé qui n'a pas été diffusée. Ça a été diffusé au cinéma Le Brady, cinéma mythique de Paris, qui était le cinéma de Jean-Pierre Mocquet. Au début, donc, le film, ça commence en haut de Montmartre, très tôt, un jour d'été. Donc, c'est vraiment très tôt, mais le soleil est là. Une jeune femme arrive, elle s'assied sur un banc, elle a l'air un peu hébétée, un homme arrive, discute avec elle, puis d'un coup de pistolet, la tue. Et puis s'en va, et on découvre en fait que c'est un policier. Et donc, ils ont bien lancé l'histoire. C'est-à-dire, un policier a tué quelqu'un quand même. Mm-hmm. Voilà. Et l'histoire avance, et en fait, je me suis rendu compte à la fin, il y a plein de personnages qui arrivent, il y a des rebondissements, l'histoire devient intéressante. C'est qu'en fait, je ne sais toujours pas qui est cette jeune femme. Et on l'a vu au début. Et je me suis dit, en fait, il s'était dit, c'est une belle image. Et juste, il n'y a pas la réponse dramatique à la fin. Donc, en fait, techniquement, ce n'est pas début, milieu, fin. Mm-hmm. Par contre, des années après, le scénariste de cette histoire, que j'avais rencontré lors du tournage de Film de Zombies, mm-hmm. a repris ça et a tout construit. Et là, il a fait, par contre, quelque chose qui, narrativement, est très, très bien. C'est deux romans qui s'appellent Pills Nation et Désert Noir. Mm-hmm. Donc, l'auteur s'appelle Adrien Pochet, c'est du roman policier fantastique, et c'est très bien. Mais tout ça pour dire que ce qu'il avait fait, alors que c'était quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il avait oublié quelque chose d'évident où il n'avait pas pensé que c'était important, c'est-à-dire de dire que dès qu'on ouvre une histoire, tous les éléments donnés, mm-hmm. c'est des éléments où le lecteur ou la lectrice va se dire que c'est un élément qui va servir plus tard. Mm-hmm. Donc, il y a quand même, quand on lit l'esprit logique, se met en branle pour essayer de construire, comprendre ce qu'on est en train de nous raconter, surtout au début d'une histoire, dans la phase d'exposition. Mais bon, pour venir au truc, le truc en trois parties, mm-hmm. c'est juste que c'est un bon outil pédagogique. Mm-hmm. Après, il y a des plans en quatre parties, c'est-à-dire le plan en quatre parties, c'est exposition, acte A, qui sont les péripéties positives, où le héros ou l'héroïne est en mode de conquête, avec une rupture au milieu de l'histoire, où quelque chose se renverse, et après c'est les péripéties négatives, où le héros ne vit que des choses négatives, jusqu'à un point d'affrontement mm-hmm. face à son adversaire ultime, et après il y a la fin. Donc ça c'est un plan à quatre parties. Mm-hmm. Après il y a des plans très compliqués, des plans qui sont des plans en étapes. Alors c'est évoqué un peu dans le livre, en 1949, il y a un Américain qui est professeur de littérature, qui s'appelle Joseph Campbell. Joseph Campbell, il écrit un livre qu'il présente comme un livre d'analyse des mythes, qui s'appelle « Le héros aux mille visages ». L'idée de Campbell, c'était de dire que les mythes, où qu'ils soient partout sur Terre, reposent sur les mêmes étapes. Que tout héros de mythe va passer par les mêmes étapes. D'abord, le monde est normal. Arrive une catastrophe. Le monde est déstabilisé. Le héros reçoit l'appel du héros. On lui dit « Viens toi, héros, tout seul nous sauver ». Le héros dit « Non, moi, je ne veux pas y aller. » Une deuxième catastrophe arrive. Et là, le héros se dit « Ah, j'aurais dû dire oui. Donc maintenant, je me sens coupable, il va falloir que j'y aille. » Donc, il y va. Mais là, heureusement, il rencontre un mentor. Et le mentor l'aide. Mais malheureusement, le mentor meurt. Et donc, le héros se dit « C'est moi qui vais devoir y aller. » il y va. Il apprend un truc un peu particulier. Et puis après, à la fin, il se retrouve tout seul face au dragon. Face à Dark Vador, voilà, il le bat, il revient au monde initial, mais il a appris quelque chose, et il partage sa sagesse avec les autres.
Qui peut écrire un livre.
Voilà. Et donc ça, Campbell écrit ça, et c'est un immense succès, ce livre. Tous les anthropologues disent « ce livre, c'est nul », parce que... dire que toutes les peuplades du monde ont les mêmes mythes, c'est n'importe quoi. Mais, même si les anthropologues ne l'aiment pas, le reste du monde l'aime, et c'est un grand succès, et ça va inspirer beaucoup de scénaristes américains dans les années 50, 60, 70, 80. Je pense que la personne qui a le plus fait pour Campbell, c'est George Lucas, parce que Star Wars est explicitement construit selon le schéma de Campbell. Mm-hmm. Voilà. Après, un élément intéressant, c'est que tous ces schémas, en fait, se présentent comme neutres. C'est-à-dire, vous pouvez l'appliquer dans tous les sens, ce schéma. Vous pouvez l'appliquer à toute histoire. Sauf que, en fait, en creux, le schéma de Campbell, c'est un schéma qui a un contenu politique, qu'on ne voit pas, généralement. c'est que le contenu politique de Campbell, c'est il y a une société, il y a une catastrophe, une personne toute seule, qui est souvent un homme blanc,
oui.
Voilà, décide que ça sera lui qui va sauver les autres. Il s'en va, il quitte la grotte, il va tuer le dragon, il ramène le dragon, tué, et il dit aux autres, bande de nazes, heureusement que je suis là, parce que sans moi, vous en sortirez pas. Voilà.
À partir de maintenant, c'est moi le patron.
C'est ça, voilà. C'est une sorte, en fait, il y a quand même un contenu idéologique sous-jacent. Par exemple, dans les années 60, il y a une romancière américaine qui vient d'une famille d'anthropologues, donc il connaît ce texte et qui ne l'apprécie pas, qui se dit, moi j'ai envie d'écrire, mais je vais faire exactement le contraire. Mes histoires, ça sera des personnages, soit hommes, soit femmes. Déjà, dire mes personnages, il y aura des femmes comme personnages principaux, c'était pas hyper évident à l'époque. Deux, même si c'est des hommes, ça sera pas des hommes avec des valeurs virilistes. Donc, ça sera souvent des ethnologues, des explorateurs, voilà, mais pas nécessairement des militaires, des conquérants, voilà. Quand ils partent, leur aventure, ça consiste pas toujours à aller tuer quelque chose.
Ça peut être pas mal.
Ils vont essayer de rester dans une approche collective, c'est-à-dire travailler à plusieurs. Et quand ils reviennent, ils vont éviter de dire aux autres « Sans moi, vous en seriez pas sortis, bande de nazes. » Et le monde d'après n'est pas la Jérusalem terrestre où tout va bien pour toujours. C'est un monde différent où on est capable de voir qu'il y a des choses qui vont mieux, des choses qui vont pas mieux. Et voilà. Et cette romancière américaine, c'est Ursula K. Le Guin, qui, en fait, au lieu d'écrire un essai sur ça, elle a écrit pendant 20 ans des romans.
Oh, il est 20h.
Il est 20h. Eh bien, je vous remercie.
Non.
Et je vous rends l'antenne. À vous que voilà.
Véritable
coucou
de
Bavière.
Je me demandais tout à l'heure justement s'il y avait
l'oiseau sort et c'est un des meilleurs moments. Voilà. Oui, puis après il y a une chanson.
Attention, elle dure 8 heures. Hein.
Mais je crois que c'est la première fois que j'en vois en fait. Je trouve ça trop joli.
Tant mieux, voilà. Mais je l'adore. Je suis
fan. Hein.
J'attends les heures pour ça, quoi. Tu vois, c'est voir l'oiseau sortir et je crois que je m'en lasserai jamais en plus. Jamais.
Et ben moi, je regrette que Fidel Castro soit mort parce que j'aurais trop aimé voir un grand discours de Fidel Castro interrompu par ça. Juste pour savoir comment Fidel aurait réagi, quoi.
Ouais.
Non, parce que mon petit nom, c'est Fidel. Parce que j'ai tendance à parler 8 heures d'affilée. Donc, c'est pas un compliment, en fait.
C'est pour ça qu'elle est la question 3, en fait.
C'est complètement démérité.
Donc, Ursula K. Le Guin, au lieu d'écrire un essai dessus, elle a écrit des romans. Elle est devenue une des plus grandes romancières américaines dans les années 60, 70, 80. Elle a gagné presque tous les prix littéraires américains. Et voilà. Et dans les années 80, elle a écrit un essai sur cette question, qui s'appelle « La théorie de la fiction panier ». Et donc, en fait, c'est une théorisation de ce qu'elle a fait en termes d'écriture, mais ça a bien sûr beaucoup plus de force, parce que c'est une théorisation rétrospective sur ce qu'elle a effectivement fait, avec cette règle qu'on convainc beaucoup plus les gens par les actes que par les mots. Et elle peut les convaincre par les actes parce qu'en fait, elle a publié une vingtaine de romans qui respectent ces règles et qui sont des succès et qui ont changé la vie de plein de personnes. Et son essai des années 80, La théorie de la fiction panier, c'est cette idée que, d'après elle, on a eu pendant des siècles que des fictions du chasseur. Fiction du chasseur, c'est que les préhistoriens pensent que finalement, il y avait peu d'êtres humains qui étaient des chasseurs. Il n'y a pas eu des sociétés de cueilleurs, puis des sociétés de chasseurs, ou dans le sens inverse. C'est qu'en fait, il y a presque toujours eu une petite partie de la population qu'on envoyait à la chasse. Et les autres, heureusement que tout le monde n'allait pas à la chasse, parce que sinon, l'extinction des espèces, ça aurait eu lieu il y a beaucoup plus longtemps. Et en fait le chasseur, il sort de la grotte, il tue quelque chose, il revient et il assoit son pouvoir dessus, alors qu'en fait ce qu'on fait les autres, ça a aussi de la valeur. Au sens ils ont poussé les ours qui s'approchaient, ils ont fait pousser des trucs, ils ont cueilli, ils ont cuisiné, ils ont poncé les plaies, ils ont fait plein de choses. Et donc, elle suggère qu'on développe autre chose que la fiction du chasseur. Tout ça pour dire que dans les formes de récit, mm-hmm. il y en a plein. Mm-hmm. Il faut être sensible au fait que chaque forme de récit, ça donne un fond. C'est-à-dire que un récit de victoire personnelle face à l'adversité, on peut reprendre le schéma de Campbell, c'est très bien. Mm-hmm. Mais si on veut figurer une aventure collective, on ne peut pas prendre un récit de Campbell. Ça créera cette situation surréaliste d'une grande partie du cinéma américain, qui sont des récits d'émancipation prétendument collective, sauf que ce n'est pas des collectifs, c'est toujours un individu à chaque fois qui s'en sort en faisant comme s'il avait fait un truc pour les autres, et il n'a jamais rien fait pour les autres, quoi. Il a fait juste un truc pour lui. Ce qui est très bien pour lui, c'est bon, tant pis pour les autres, quoi. Mais tout ça pour dire que Le Guin, elle avait une façon de résumer ça que je trouve très très juste, c'est de dire que il n'y a pas de façon d'écrire une bonne histoire, mais chaque histoire a ses règles. Donc il n'y a pas de règle absolue, mais chaque histoire a ses règles, et une fois qu'on a établi en début de récit ces règles, il faut les respecter. Et pour elle, c'est plutôt sous l'angle du pacte que l'écrivain passe avec le lecteur ou la lectrice. De dire « je vais vous raconter ça », et donc on va jouer ensemble, mais je vous donne des règles et je les respecte. Et ça, c'est, par exemple, c'est une règle qu'il y avait déjà dans le théâtre français, du XVIIe siècle. Mmh. Cette idée qu'au-delà de la scène, au-delà du passage d'exposition qui couvre généralement tout l'acte 1, on n'est pas censé rajouter d'autres choses. Tout le reste, les actes 2 à 5, c'est juste les interconnexions de ce qui a été mis en place dans l'acte 1. Mmh. Un des problèmes esthétiques que présentait le Cid, par exemple, pour beaucoup, c'est que le Cid, justement, change les règles du jeu en cours de pièce. Mmh. Et que c'est pour ça que certains, à l'époque, ont été, alors traumatisés, c'est un bien grand mot, mais
choqués
par le Cid, et parce que le Cid ne respectait pas les règles qui semblaient être les règles initiales du Cid, c'est-à-dire que, grosso modo, normalement, à la fin, le Cid, ça devait mal finir. C'est-à-dire que c'est vraiment, normalement, parti pour être la tragédie où tout le monde meurt à la fin, et en fait... je vous raconte la fin. Tout le monde ne meurt pas à la fin.
J'ai pas lu le Cid. Bon, si je me permets, parce que c'est.
Mais il y a plusieurs versions du Cid.
Ah oui,
il y a plusieurs versions du Cid. Ouais. Il y a eu plusieurs versions au théâtre. Il y a eu des adaptations cinématographiques. Ce qui a inspiré d'une histoire vraie, un peu fantasmée. Okay. Et donc, il y a. Voilà.
Okay. Mais je préfère. Parce que celui-ci, je sais que ma mère, elle n'arrête pas de me dire cours, vol et me mange tout le temps. Je crois que c'est ça, il me semble.
Oui.
Et du coup, ça m'a donné envie de le lire, mais j'ai pas encore pris le temps, donc je préfère.
Il faut le voir sur scène.
Voilà. Pour une fois, je préfère
le voir sur scène.
Moi, je me souviens, j'avais été voir dans une librairie une rencontre avec Virginie Despentes quand elle avait sorti Vermont Subutex. Et à cette époque, elle avait déjà sorti plusieurs romans, au moins 5, et elle expliquait qu'elle était passée par la case réalisation. Et que le fait d'avoir assisté au montage, que c'est sa monteuse en fait qui lui avait expliqué comment on racontait une histoire. Qu'elle avait beaucoup appris de ça et qu'elle s'était servie de cet enseignement pour écrire donc les 3 volumes de Subutex. Toi dans le manuel, tu dis qu'il faut absolument lire beaucoup et tu fais quand même énormément de références dans les histoires au cinéma, aux séries. Est-ce que finalement le cinéma c'est pas le meilleur endroit où on raconte des histoires ? Est-ce que c'est encore possible dans la littérature ? Est-ce que, en fait, il faut lire, c'est bien, mais il faut surtout regarder des films pour écrire ?
Alors, non, il faut surtout lire. Voilà.
D'accord. Ça...
je pense que...
Ouais, c'est bon. Si tu peux rester, du coup...
Voilà, c'est ça.
C'est une question piège.
Ouais. Du coup, essaye que non.
Non, ce qu'il y a, c'est que le cinéma, pour toutes sortes de raisons, c'est beaucoup plus populaire que la lecture. C'est que la lecture a une origine beaucoup plus élitaire que que le cinéma. Dans le cinéma, il y a longtemps eu cette ambition de plaire à beaucoup de gens. Enfin, c'est toujours une ambition d'une partie du cinéma. Mmh. Et c'est vrai que... Pardon ?
En littérature, non. Tu trouves qu'on n'avait pas cette ambition ?
Alors, la littérature... Non, mais en fait, maintenant, la littérature et le cinéma, si on devait dire les choses de manière schématique, sont structurées presque de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un pôle populaire, un pôle plus élitiste, mm-hmm. qui... C'est aussi lié au fait que Par rapport à il y a 200 ans, hein, surtout par rapport au cinéma, mais on pourrait considérer que le cinéma, c'est l'héritier du théâtre, donc on va comparer théâtre et littérature sur 200 ans, c'est que le nombre de personnes qui fréquentent César, qui pratiquent César en tant que spectateur, a beaucoup augmenté, et à partir de ce moment-là, on est face à des marchés qui se segmentent. La question de la segmentation se posait pas il y a 200 ans. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, il n'y a pas de notion vraiment de segmentation. Maintenant, il y a de la littérature populaire, de la littérature pointue, surtout en France, où il y a une production de livres qui est complètement délirante. Voilà.
C'est vrai.
Après, c'est pas parce qu'il y a une très grande diversité de livres, c'est-à-dire beaucoup de livres produits, qu'il y a une très grande variété de livres. La variété, c'est les types de livres. C'est-à-dire que, finalement, les romans auto-fictionnels, un peu réalistes, parisiens, c'est un gros bloc qui réduit depuis quelques années, mais ça a longtemps été un gros bloc. La littérature populaire d'un certain type, c'est un gros bloc. Ça fait beaucoup d'œuvres, mais en fait, ça fait qu'une variété. Enfin, voilà. Donc, c'est pas parce que... Mais c'est important de garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on produit beaucoup de films ou beaucoup de romans qu'il y a toujours une très grande variété esthétique. C'est quelque chose d'important parce que la variété... C'est vraiment... Pardon, je fais un tout petit excursus. La variété, c'est lié à la possibilité dans un secteur, dans une industrie culturelle, d'avoir des acteurs de taille et de forme différentes. C'est-à-dire, petite maison d'édition, grosse maison d'édition, maison de groupe, maison indépendante. Quand il y a un écosystème qui est riche, on peut avoir des choses variées. La difficulté qu'a eu longtemps l'audiovisuel aux États-Unis, c'est que c'était un écosystème très puissant économiquement, mais très uniforme. Donc avec peu de variété, en fait. Grande diversité, petite variété. Et ça, dans l'écosystème des industries culturelles, c'est un élément important. Mais on s'éloigne du sujet. Et ta question, c'était...
Est-ce qu'on peut encore... est-ce qu'il fallait lire, regarder des films?
Alors oui, il y a quelque chose...
Et est-ce qu'on peut encore...
Moi, alors, c'est... ce que je vais vous affirmer, c'est une hypothèse ou une intuition. Ce n'est pas la vérité.
D'accord.
Voilà, parce que je n'ai pas les moyens de savoir si c'est la vérité. L'impression que j'ai à partir de la lecture des manuscrits, qui est quand même une expérience qui n'est pas inintéressante, parce que chaque année, c'est plusieurs milliers de manuscrits que moi, je peux recevoir. Je ne les lis pas tous intégralement, ce ne serait pas matériellement possible. C'est que, en fait, une partie des personnes qui écrivent croient, depuis les années 50, que la littérature est dans le post-narratif. C'est-à-dire qu'à partir des gommes de Butor, Butor a mis fin à une forme de roman classique qui ne pourrait plus exister. Et que, en fait, on est dans du post-dramatique. Que le dramatique, c'est l'histoire du cinéma, c'est le théâtre, mais c'est clairement pas la littérature. La littérature, c'est autre chose.
D'accord.
Sauf que penser ça comme étant une avant-garde, c'est un peu gênant parce qu'en fait, c'est une idée des années 50. Donc, c'est pas vraiment une avant-garde. On a l'impression, en fait, que c'est comme parfois dans les arts plastiques, c'est des avant-gardes qui, en fait, sont très consensuelles et très répandues. Sauf que cette vision de l'évolution de la littérature, elle repose quand même sur une erreur, c'est de croire que la littérature a évolué comme les arts plastiques. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire, par exemple, dans les arts plastiques, si vous faites un tableau comme au XVIIIe siècle, votre capacité à participer à la conversation sur la peinture va être très limitée. C'est-à-dire, si vous peignez comme un peintre du XVIIIe siècle, vous êtes vous-même mis hors de l'histoire de la peinture. Quoi. Vous êtes, voilà, vous avez le droit de le faire dans votre coin, mais vous participez plus à l'histoire collective de la peinture. La littérature, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les nouvelles formes littéraires ne supplantent jamais les anciennes, ne les rendent pas impraticables, périmées, des choses comme ça. Et il y a même un autre truc, c'est le côté populaire de la littérature, c'est que je pense que dès qu'on raconte une histoire, on reste dans une littérature qui a d'emblée une assiette plus grande, hein. C'est-à-dire on s'adresse à plus de personnes. Il y a un appétit pour la fiction. Et je pense que... Alors, pour le coup, ça c'est quelque chose qui est étudié depuis une vingtaine d'années sur les mécanismes du cerveau, sur la nécessité de fiction comme une sorte de pulsion naturelle de l'être humain qui lui permet de faire des liens entre des choses qui n'ont rien à voir, donner de la cohérence au réel. L'être humain se raconte des histoires pour donner de la cohérence au réel. C'est pas, enfin, il n'y avait pas besoin d'attendre les études sur le cerveau pour savoir ça. Ce que je veux te dire, c'est, je pense que les gens le savent depuis longtemps, on se raconte des histoires pour donner de la cohérence au réel. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas épuiser le besoin de savoir raconter une histoire. Mais de la même façon, je ne pense pas que savoir raconter une histoire, ça rende inutile le nouveau roman. C'est-à-dire la proposition esthétique du nouveau roman, elle est toujours valable aujourd'hui. Elle n'est pas dépassée. Voilà, c'est juste qu'il y a... voilà, il faut conserver cette forme de variété. Là, pour l'instant, on est dans un cas d'une variété. C'est-à-dire deux types d'écriture complètement différentes. Voilà, donc oui, on peut encore écrire des histoires, on peut encore inventer des histoires. On peut considérer que c'est un élément très important de l'écriture du roman. Et on peut aussi considérer que l'écriture du roman ne repose pas sur bien raconter une histoire. Et voilà. Par exemple, en lisant Le Guin et cette idée que chaque roman a ses règles, mais il n'y a pas de règles absolues, c'est une manière de dire que on n'a pas toujours à raconter une histoire. Ou elle peut avoir une forme complètement biscornue. Voilà. Donc il y a... beaucoup de choses qui sont possibles.
Oui. C'est libre, quoi.
Oui, c'est libre.
C'est libre, il faut respecter, oui. Voilà, il faut...
C'est-à-dire que moi, je ne veux pas défendre une esthétique qui serait une esthétique de dire un bon roman a nécessairement une bonne histoire.
Voilà, il y a ça.
Simplement, il y a quand même quelque chose, moi, que je vois dans les manuscrits, c'est que je reçois beaucoup de manuscrits où les auteurs-autrices considèrent qu'ils n'ont pas à écrire une histoire parce que l'histoire est quelque chose du passé. Mais je pense qu'ils ne mesurent pas qu'en fait, pour que moi, un quelconque lecteur ait envie de lire plusieurs centaines de pages, il faut les faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais ça peut être les faire tenir par la langue. Les faire tenir un texte par la langue sur 300 pages, il faut être très très fort. C'est possible, ça arrive. Mais il faut le faire. Est-ce que ça peut être par les idées? C'est aussi possible. Est-ce que ça peut être... par... il y a plein de choses. Mais voilà. Sauf que beaucoup de récits, de manuscrits que je reçois, c'est clairement des gens qui ont envie de raconter une histoire, mais qui, consciemment ou inconsciemment, on considère que ça vient naturellement, qu'on n'a pas besoin de construire, et voilà. Et ça s'apprend, en fait. Comme tu dis, en anglais, quelqu'un qui fait le montage d'un film, on l'appelle un editor. Éditeur, c'est le même mot pour désigner un éditeur, quelqu'un qui travaille sur son texte. Et moi, parfois, le travail que j'ai avec les auteurs que j'ai décidé de publier, c'est de leur dire « Ah, mais le chapitre 3, il ne fonctionne pas bien. Je ne vois pas en quoi il fait progresser l'intrigue. Il est assez long. Il y a quand même un risque que beaucoup de gens décident d'arrêter.
Ouais.
Et donc, est-ce que tu ne penses pas que ça serait bien de le couper ? Alors, il y a des auteurs retors, comme Gilles Marchand, qui vont dire « Ah bah, si tu ne l'as pas compris, c'est que je l'ai mal conçu, donc je vais le reconcevoir. » Et donc, deux jours après, complètement réécrit le chapitre, il a réécrit le chapitre d'avant et le chapitre d'après pour que tout refonctionne. Ça, c'est très bien, parce que d'une certaine façon, il résiste, mais c'est toujours très fécond, parce qu'en fait, c'est toujours une sortie par le haut. Après, il y a des auteurs qui vont dire « Ok, on coupe » ou « Voilà. » Mais c'est très... voilà, et donc je suis un peu parfois l'éditeur. Alors, moins qu'un éditeur de cinéma, parce qu'un monteur de cinéma
refait
l'histoire, ouais, voilà. Carrément. Moi, c'est pas le cas, parce que moi, je travaille en permanence avec l'auteur, et c'est son œuvre. Moi, je suis juste à faire des remarques, quoi. Et lui, il en fait un peu ce qu'il veut, quoi.
Ça fait un an maintenant qu'il est sorti, ton livre.
Oui.
Est-ce que tu as reçu un manuscrit qui se revendiquait de ta méthode ? J'ai lu votre méthode, comment écrire son premier roman, je vous envoie donc...
Oui, alors...
Et alors
non, mais... faut voir que... Il y a... Dans la lettre, ça va apparaître. Ça va pas nécessairement apparaître dans le manuscrit. Pour une raison assez simple, c'est que souvent, l'écriture étant quelque chose de personnel, il est assez rare que les gens écrivent pour moi ou écrivent pour les forges. Ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent dans leur coin. Et après, ils se disent « j'aimerais bien publier », ce qui est tout à fait naturel. Et ils vont sur le site des maisons les unes après les autres, et à chaque fois, ils essayent de trouver une accroche. Ce qui est en fait très naïf, parfois, mais je ne peux pas en vouloir, parce que c'est quand on écrit, on n'a pas à savoir comment fonctionne l'édition. Mm-hmm. Mais quand les gens prennent des accroches, parfois ils tombent un peu à côté de la plaque, ça donne un truc un peu comique. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils vont dire j'ai lu plein de romans dans votre maison d'édition, et ils donnent une liste qu'ils ont prise sur le site. Ouais. Mais parfois, ils mettent dans la liste des choses qui ne sont pas des romans. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas des romans.
Ou apparaître, tu sais.
Oui, il y a ça. Ah oh, non, mais alors, moi, la chose qui était la plus. Un truc qui est très bien, c'est qu'une fois, j'ai. Cet essai, c'est issu d'une série d'ateliers que j'ai fait en ligne pendant 3 ans. Et à la fin, beaucoup de participants disaient ce serait bien qu'on ait une sorte de pense-bête comme un petit livre. Et j'ai dit ah ouais, on va faire le livre. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que je me disais les cours étaient bien, mais il y a quand même déjà beaucoup de manuels d'écriture. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter un autre manuel à cette pile de manuels et voilà. Et donc, j'ai beaucoup lanterné. Ça a pris plusieurs années pour faire le livre. Dans ta précédente librairie, tu m'avais invité et le livre n'était pas encore sorti parce que j'avais du mal à finir le livre, donc il a été décalé plusieurs fois. Et une fois, j'ai rencontré.
Mais
je voulais,
c'est ça.
Oui, je sais. Voilà. Et une fois, j'ai rencontré une journaliste qui voulait me placer un manuscrit, son manuscrit. Mm-hmm. Et elle m'a dit qu'elle avait lu mon livre et qu'elle l'avait adoré. Ah. Parce qu'en fait, il était annoncé en ligne. Mm. Sauf que je ne l'avais pas écrit. Et donc, elle ne l'avait pas lu, sauf que sur les sites internet, il était marqué comme existant. Ouais. Mais ce n'était pas le cas. Ouais. Mais en fait, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens?
Non.
Enfin, j'ai une de mes meilleures amies que j'avais invitée quand on était dans un truc de théâtre, que j'avais invitée à Avignon pour voir une pièce que j'avais coécrite. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je jouais le rôle principal. Mm-hmm. Et donc, je l'invite et je dîne avec elle quelques semaines après. Et elle me dit « Ah oui, j'ai vu la pièce, je l'ai trouvée super. Mm-hmm. » Et en fait, j'ai bien compris ce qu'elle disait, qu'elle l'avait pas vu, mais...
Sinon, elle t'aurait reconnu.
Et je lui ai dit, et tu l'as trouvé comment, le comédien principal? Ouais. Elle a dit, oh, il était très bien, hein. Ouais. Où tu l'as trouvé? Et je crois que je lui ai jamais dit, en fait. Je l'avais osé lui dire.
T'es adorable, de ton
père. Non, je suis pas adorable, mais...
Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens?
Non. C'est, voilà, toujours... oui.
Et justement, pour rebondir, parce que... Tu expliques, hein, c'est 10 ans d'atelier d'écriture, 12 ans d'expérience au Forge, les 3 ans de ta DraftQuest. Est-ce que tu penses que ce manuel suffit? Ou est-ce qu'il y aura écrire son second roman en 5 minutes par jour? Non. Est-ce qu'il faut rajouter encore quelque chose? Est-ce que tu
non,
penses
mais que... après, la difficulté que j'ai souvent rencontrée avec des gens qui avaient envie d'écrire et qui étaient des gens qui lisaient beaucoup, mais souvent, lire beaucoup, ça peut... dissuader de l'écriture. C'est-à-dire que si on lit beaucoup, on commence à avoir une très très haute estime des écrivains et de l'acte d'écrire, et donc on peut se dire je pourrais jamais écrire. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire qu'on peut écrire ce qu'on peut écrire soi. On vit pas la vie des autres, on vit que sa vie. Il y a le réel qui nous est offert à chacun, voilà. Le possible qui nous est offert à chacun, et voilà. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui. Je les croise depuis une dizaine d'années, et en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau manuel d'écriture, ils vont l'acheter, le lire et tout ça. Donc, c'était aussi... j'ai toujours un peu peur que chaque fois que j'écris... Si j'écris un autre truc sur l'écriture, c'est que ces gens-là que je connais, qui sont devenus des amis pour certains, au lieu de se mettre à écrire, ils vont lire un nouveau manuel. Quoi.
Donc, pas quoi.
Non. Et même, je ne devrais pas dire ça, mais il faut pas lire ce manuel, il faut juste écrire. Voilà.
Ça.
Non, 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 ce que je dis souvent, c'est que...
La rencontre ne peut pas se terminer sur ça.
Non, mais par exemple... Non, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut écrire, et quand on rencontre une difficulté, lire quelque chose pour se débloquer, et écrire comme ça.
Écrire son...
Oui, c'est ça. Et lire ce livre. Après, c'est un livre qui est assez court. Alors non, il y a quand même une particularité. On voit un tout petit peu dans son titre, qui est une plaisanterie. Quand tu parlais depuis un an de ce qui s'est surtout passé, c'est que j'ai reçu des lettres désagréables de gens qui n'avaient pas compris le titre.
Et j'écris 10 minutes par jour,
parfois...
j'ai toujours passé
3 mois.
Non,
des... j'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était une honte d'écrire un titre comme ça, parce que J'étais un assassin de la culture et un ennemi de l'intelligence. Ouais. Parce que grosso modo, il y a tellement d'écrivains qui se sont sacrifiés et tout ça, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas. Simplement, le coût des 10 minutes par jour, ouais. C'est à la fois une blague. C'est une blague qui vient d'un film, qui est un film américain des années 90, qui est un film des frères Farrelly, donc deux frères qui ont fait beaucoup de films comiques qui maintenant font des films plus sérieux, et qui s'appelle Marie à tout prix. Et dans Marie à tout prix, il y a un personnage qui, pour retrouver sa bien-aimée en Floride, descend les États-Unis et, histoire de ne pas s'endormir dans la voiture, parce que c'est des heures et des heures de route, il prend un autostoppeur avec lui qui rentre avec une sorte de grosse contrebasse dans la voiture. C'est la nuit et voilà. Et en fait, il n'a pas de chance, l'autostoppeur est complètement fou. Et l'autostoppeur lui dit « J'ai trouvé moyen de faire fortune, je vais faire des vidéos qui vous expliquent comment 7 minutes par jour vous faire des abdominaux. » Et le héros, qui n'est pas complètement réveillé, lui dit « Ah ouais, c'est un bon moyen de gagner de l'argent, mais... » Sauf bien sûr le jour où il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Je vais faire une vidéo où en 6 minutes par jour, je vous apprends à faire vos abdos. » Et là, l'autostoppeur rentre dans une rage folle et dit « Mais c'est pas possible, parce qu'on peut se faire des abdos en 7 minutes, mais pas en 6 minutes !» Et voilà. Et là, donc c'est un clin d'œil à cette scène. Bien sûr, clin d'œil que personne n'aura vu, parce que je crois qu'on n'est pas si nombreux que ça, un, à avoir vu ce film, ouais. Deux, à faire la jonction entre les deux. Ouais. Mais le deuxième aspect, c'est que ce qui manque souvent, j'ai l'impression, dans les manuels d'écriture, c'est que pour avoir rencontré beaucoup d'aspirants auteurs, je me rends compte que la difficulté qu'ont la plupart d'entre eux, c'est pas des difficultés intellectuelles. C'est des gens qui sont cultivés, c'est des gens qui lisent, c'est des gens... voilà. Mais c'est plus des difficultés qui vont être, entre guillemets, du côté psychologique. C'est-à-dire, ils se disent, bon, bah, je commence à écrire. Et puis au moment où ils se dirigent vers l'ordinateur pour écrire, ils se disent... Et si je repassais toutes mes chemises ou et si j'allais faire des courses? Et si je passais l'aspirateur? Et si je classais tous mes livres par couleur?
Si j'allais voir des vidéos de chats sur Facebook.
C'est ça, voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est pas mal étudié. C'est les mécanismes d'évitement qui créent des formes de procrastination. Et voilà. Et donc, un petit truc que j'ai fait au début, parce que c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, c'est avant de rentrer dans les règles, les constructions, la lecture et tout ça, il y a un petit truc sur la psychologie. Et notamment sur le fait que dans l'acquisition d'habitudes, il y a toute cette réflexion sur le fait qu'un moyen d'acquérir une habitude, c'est de ne chercher à... Alors, c'est très simple. En plus, ça fait depuis les années 80 que c'est documenté, qu'on fait des études dessus. C'est qu'il faut essayer de ne développer qu'une habitude à la fois, qu'il faut la développer de manière intense pendant un mois, qu'il faut qu'elle soit très simple, il faut que généralement commencer la journée avec, pour la plupart des individus, donc pas attendre de le faire avant de se coucher, et que généralement si on fait quotidiennement quelque chose pendant un mois, alors même il y a des études qui disent que c'est 21 jours, en fait on aura tellement acquis l'habitude que votre cerveau, si un jour vous ne faites pas la chose, va vous punir, va vous dire « aujourd'hui tu n'as pas fait une chose ». Alors qu'auparavant, pendant les 21 premiers jours, il va falloir vous forcer à faire les choses. Et voilà, donc...
Ça marche pas pour la cigarette.
Ça marche pas ?
Pour la cigarette, ça marche pas.
T'as pas tenté les...
Faut arrêter de fumer, non. Et 21 jours, non. Non
mais... c'est parce qu'il faut un mantra pour ça, je trouve.
Ah, les mots-clés, non, les mots-clés aussi, les ouais, maximes mais... d'ordre, les trucs
je
comme ça, ça aide. Hein.
Ou alors, écrire un roman, comment arrêter de fumer en 10 minutes.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Très bon. Best-seller.
Pire, une histoire qui est racontée, alors je sais, j'ai jamais su si c'était une vraie histoire, c'est une histoire qui est racontée par Paul Auster, qui est une histoire sur Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, qui était un universitaire russe, qui a écrit sur Rabelais, qui a écrit sur la théorie du roman. Et ce que raconte Paul Auster, là aussi, il faudra aller vérifier si c'est une vraie histoire, un truc comme ça, c'est que Bakhtin s'est retrouvé en camp de prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il avait son manuscrit d'un de ses essais avec lui. Et comme il faisait froid et qu'il s'est rendu compte que le seul moyen de se faire des amis, c'était de leur faire des cigarettes, bah, le manuscrit, il l'a transformé en cigarette, un peu d'allemand. Et après, quand il a été libéré, il a dû réécrire tout le manuscrit. Non, parce que là, tu as lancé un fil de discussion sur les liens entre le tabac et l'écriture.
Voilà.
Voilà. Peut, donc, son manuscrit est littéralement parti en fumée.
Donc, voilà. Il a transformé le papier de cigarette en
roman. Voilà. C'est ça. Ah, mais c'est ça que tu devrais faire. Tu devrais faire. Dès que tu as une cigarette, tu déchires, tu prends le papier et tu écris dessus, quoi. Voilà.
Au prix des cigarettes, je crois que
c'est ça. Ou sinon, tu sais, comme Walzer, l'écrivain suisse, qui avait une écriture microscopique écrite sur des toutes petites feuilles comme ça. Une écriture quasi hiéroglyphique. Ouais. Un peu de courage pour le lire, mais.
Merci, en tout cas, tu conseilles. Je vais essayer de le prendre en compte. Alors, une dernière question, et puis après, on va
Ouais, et on se revoit là, c'est la prochaine. Ouais, voilà. C'est moi qui suis sur le divan là.
Plus léger, est-ce que tu as un exemple, parce que là encore, je le rappelle, on est entre nous, d'un mauvais roman publié qui a bien fonctionné, histoire de nous donner une idée de ce qu'il ne faut pas faire.
Alors, non, par règle, je n'ai jamais du mal de qui que ce soit ou quoi que ce soit.
D'accord, bravo, c'est tout à ton honneur. Donc,
non, c'est surtout parce que je m'enregistre en fait. Donc...
Ok, donc on coupe, on va boire un petit verre et pas de problème.
Non, mais parce que après. Il y a un retour depuis quelques années de ce qu'on appelle la littérature du réel. La littérature du réel, c'est sous différentes formes. Ça peut être de la littérature du réel sous la forme de non-fiction, où vous écrivez un truc qui est bien écrit, qui parle d'un événement réel. Ou sinon, vous écrivez un roman. Mais dans ce roman, il y a plein de bouts qui portent sur quelque chose de très réel, c'est-à-dire de très documenté. Voilà. Et parfois, il peut y avoir des romans qui sont sur des sujets passionnants, qui vont avoir du succès parce que c'est des sujets passionnants ou des sujets importants pour une société, mais c'est pas nécessairement des bons romans. Mais ça... voilà.
Ça marche.
Mais ça marche. Ça, okay. Voilà, et puis ça remplit une autre fonction. Et puis même, parfois, on essaie de sauver ces romans en disant oh, « En fait, c'est pas si mal écrit que ça. » Moi aussi, c'est mal écrit, mais c'est pas un problème. C'est voilà, donc c'est
ou alors disons quelqu'un qui serait mort, voilà, tu vois, d'un exemple d'un roman début 20e, voilà, je sais pas, je veux dire, vraiment pour nous donner une idée, voilà, de ce qu'il faut surtout pas faire,
non, mais
même
attends.
Si ça a bien marché à l'époque,
mais tu vois, par exemple, d'une certaine façon, tu veux considérer que la recherche du temps perdu, ça respecte pas des règles de la narration. Sauf que ça c'est une excellence esthétique qui repose sur autre chose, quoi, voilà.
Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas critiquer. Mais...
J'ai reçu...
Je me le laisse pour la retraite. Parce que
j'ai reçu mes Pléiades il n'y a pas longtemps, mes 3 tomes. J'ai écouté mes Mimès il n'y a pas longtemps, justement. Ça m'a
mis... Non, les règles... Enfin... Il y a plein de romans qui ont dû... Enfin... Déjà, le succès esthétique... n'est malheureusement jamais lié au succès commercial. Parfois, il y a des œuvres très bien écrites qui rencontrent un grand succès, et c'est très bien, mais on a aussi des œuvres à succès qui ne sont pas des grandes œuvres, des œuvres qui sont remarquables intellectuellement, voilà, mais qui ne fonctionnent pas. Après, il y a plein de mécanismes dans l'édition, c'est-à-dire que dans l'édition, on dit si un texte est bon... il trouvera toujours son public. Ça, c'est faux. En fait, on se dit ça pour s'endormir la nuit et éviter de se réveiller à 3h du matin, nu sous la douche, en position fœtale. Non, parfois, il y a des grands textes. Alors, le truc qu'on se dit, c'est qu'un grand texte, on pourra peut-être le réactiver un jour. C'est-à-dire quelqu'un va le redécouvrir 10 ans après, le faire vivre. Et le problème, c'est que si, lors de sa sortie, un texte s'est très, très peu vendu, la possibilité qu'il revienne, elle est limitée. Par exemple, on s'en rend pas compte, mais oui, il y a un très gros travail. Mais par exemple, une maison comme le Nouvel Attila, alors publie de la nouveauté, mais le Nouvel Attila, son éditeur, c'est souvent défini comme un rééditeur, quelqu'un qui va chercher des textes des années 50-60 qui ont un peu disparu, mais qui devrait être dans le patrimoine permanent de tout le monde, quoi.
Mendelssohn est sur le toit, c'est lui qui est un pur chef-d'œuvre qui est là, le roi par exemple.
Donc, et puis, y a aussi autre chose, c'est que non, dans l'édition, ce qui nous fait parfois tenir, c'est de nous dire que les grands succès d'une époque, il n'y en a quasiment aucun qui a survécu à l'épreuve du temps. Les plus grands auteurs du passé en termes commerciaux, sont tous indisponibles. Quand, parfois, j'interviens en master d'édition, donc des gens qui se préparent à être éditeurs, mais ils sont jeunes, parce qu'ils sont en master, pour la plupart, et je leur parle de Paul Hussulitzer.
Ouais.
Paul Hussulitzer, dernier auteur français à avoir passé le million d'exemplaires. Ouais. Voilà, auteur de fiction. Ouais. Dernier auteur de fiction.
Qui est complètement épuisé aujourd'hui.
Complètement épuisé, pas réimprimé. Voilà. Il est toujours vivant, lui.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui,
je crois.
Oui.
Non, il faudra qu'on vérifie. Voilà. Non, je crois qu'il est vivant. Il avait eu un gros problème de santé il y a une quinzaine d'années.
Oui,
je crois qu'il a eu une attaque. Voilà.
Pourquoi c'est pas réédité ? Quelle est la raison profonde ?
Parce que c'était bien sur le moment. Il a eu son succès et maintenant plus personne n'a envie de lire ça.
Alors après, en toute honnêteté, Paul Hussulitzer, il était très bien entouré. C'est-à-dire qu'il y avait des très bonnes plumes qui écrivaient pour lui. Et rétrospectivement, il y a un de ses romans, je suis pas sûr qu'il soit toujours disponible, c'est Le Roi Vert, qui est un livre assez étonnant et qui, en fait, était c'est un grand roman géopolitique sur, sur l'écologie, sur sauver l'Amazonie. Et en fait, c'était assez malin quand même. C'est dommage que ce soit... Parce que c'était de la littérature populaire de grande qualité, celui-là.
Ouais.
Après, je pense que moi, personnellement, la figure de Paul Hussulitzer incarne quelque chose qui ne m'intéresse pas trop.
Mais
je dis que je ne disais pas du mal. Hein.
Ouais. Mais tu en as quand même lu.
Oui, ouais, alors, parce que chez mes parents, quand j'étais enfant, j'avais le choix entre la biographie de Balladur et le Paul Hussulitzer. Je tiens à dire que je n'ai toujours pas lu la biographie de Balladur. Voilà.
Ouais, okay.
Et je dis pas du mal, hein. C'est...
Non, pas du tout. Ok. David, merci pour cet entretien. On va faire une pause, en fait. Je vais sortir le vin blanc, les petits chips et tout ça. Si tu veux bien, pour ceux qui veulent se faire dédicacer leur ouvrage...
Et on n'a pas fait les questions ? Ou tu veux les faire après, les questions ?
Les questions du public.
Ah oui, pardon, oui. Si vous avez des questions...
Si vous avez des questions, il y a encore 5-6 heures devant vous.
En plus,
hein.
J'ai vraiment, ouais.
Moi, je pourrais poser des questions, mais j'ai juste besoin d'une cigarette. Vous avez vous
personnellement.
Des cigarettes.
Ah oui, mais. Donc,
j'ai
fumé une cigarette, bien sûr.
Elle n'est pas en parler.
C'est ça.
Ah, l'addiction est revenue.
Voilà, c'est ça, mais je la comprends. Du coup, pas de questions ? Allez-y, hein, non, parce que il n'y a pas de. Du coup, on peut...
Eh bien, sur ce, je vous remercie.